ce qui change, c'est ce qui est derrière tout ça, parce que c'est la question de savoir à quel titre la personne exerce cette tâche. Et c'est là, effectivement, où le droit canonique intervient et où on est dans des choses qui ne sont pas toujours immédiatement visibles. Donc, l'élément qui différenciait jusqu'ici, c'est cet élément de stabilité. Pour les hommes, c'était conféré avec une stabilité, donc on peut dire à vie. Pour les femmes, c'était seulement possible avec un mandat limité dans le temps. Et c'est là où il y a le grand changement maintenant. Ce nouveau texte du pape François et les modifications qu'il apporte au code de droit canonique impliquent que maintenant, les femmes peuvent aussi recevoir ces mêmes ministères de manière stable. D'un autre côté, ça veut dire aussi, on se met au service de l'Église et on peut aller là où l'Église nous appelle à exercer ce ministère. Il me semble que c'est la première fois que des femmes peuvent recevoir de cette manière-là des ministères à vie.
Alors, est-ce que cette stabilité va avoir une influence sur la manière dont on exerce la mission, sur la conscience que l'on a de son caractère sacré ?
Oui, ça pourrait être le cas, en effet. Toute fonction dans l'Église, on l'exerce parce qu'on est appelé à cette fonction. Donc, on ne va pas s'attribuer soi-même une fonction dans l'Église parce que c'est en lien avec les besoins de l'Église. Ce n'est pas un droit de recevoir une telle fonction. Et bien sûr, une fois qu'on le reçoit, il y a des droits et des devoirs qui en découlent. Ce n'est pas tout simplement pour vous-même que vous le recevez, ça c'est l'élément de service qui a été souligné largement par le Concile Vatican II et qui vaut pour toutes les fonctions et ministères dans l'Église. Donc il y a des éléments qui étaient déjà présents, mais je peux imaginer que, étant donné que c'est un ministère qui est conféré avec un acte liturgique, que ça renforce cette idée de quelque chose de sacré qu'il faut respecter et qui ne nous appartient pas.
Alors, on parle d'une avancée pour les femmes et leur place dans l'Église, mais est-ce que cette clé de lecture d'une plus grande égalité homme-femme est adaptée pour comprendre ce motu proprio ?
Oui et non. Je dirais oui pour l'aspect que je viens d'évoquer. C'est une nouveauté maintenant que des femmes peuvent recevoir un ministère à vie. Dans ce sens-là, c'est une certaine promotion de la femme, si on veut. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que c'est pas la bonne clé de lecture de placer tout cela uniquement dans une perspective d'égalité homme-femme. C'est plutôt la distinction, est-ce qu'on se réfère en permanence au sacrement de l'ordre et donc aux questions de pouvoir d'ordre et pouvoir de gouvernement, est-ce que c'est ça notre cadre de référence, ou alors est-ce qu'on met l'accent beaucoup plus effectivement sur le sacrement du baptême? Et le pape François, à mon avis, insiste tellement sur ce dernier élément que je vois plutôt la nouveauté dans ce sens-là. La théologie baptismale n'est pas nouvelle dans l'Église, bien évidemment. Le Concile Vatican II a largement élaboré des choses et insisté là-dessus. Mais les ministères institués réservés pour les séminaristes étaient surtout, dans cette optique-là, liés au sacrement de l'ordre. Ce que le pape François fait maintenant, c'est de dissocier un peu plus ces deux ministères du sacrement de l'ordre. Donc, c'est un pas dans un autre sens. Mais on aura toujours des séminaristes qui vont recevoir les ministères institués. Et donc, ce sera toujours encore en lien avec le sacrement de l'ordre. Des personnes qui exercent les tâches de lecteur et d'acolyte sur une base temporaire, comme on l'avait jusqu'ici également. Et maintenant, on va avoir des hommes et des femmes qui, de manière stable, peuvent recevoir ces ministères institués de lecteurs et d'acolytes. Donc je pense que c'est plutôt une ouverture pour montrer que des laïcs dans l'Église peuvent aussi recevoir, et même des femmes, des ministères institués. D'un autre côté, il faut souligner aussi le sacrement de l'ordre. Le mot le dit, c'est un vrai sacrement. Les ministères institués sont des sacramentaux. Donc, ça n'a pas le même poids, ça n'a pas la même signification. Mais je trouve que c'est quelque chose d'important que les femmes peuvent maintenant recevoir ces ministères institués.
On est donc en train de déployer le sacerdoce commun des fidèles, c'est de cela dont il s'agit ?
Je pense que c'est un déploiement, effectivement, vers une plus grande diversification du sacerdoce commun. les laïcs dans l'Église, c'est effectivement la plus grande majorité des fidèles, mais c'est un groupe qui n'est pas homogène. On a des gens qui agissent en tant que bénévoles au nom de leur propre foi. On a des gens qui agissent avec un mandat d'un curé, un mandat d'un évêque diocésain. Et donc, ça devient quelque chose de plus officiel parce qu'on représente aussi l'Église à ce moment-là. Il y a des personnes, effectivement, qui ont reçu une mission ecclésiale, des gens qui ont été nommés à des offices ecclésiastiques. Et maintenant, à côté de tout cela, on va avoir des personnes qui ont ces ministères institués. Et le texte du pape François pourrait aussi être un coup de pouce, d'une certaine manière, non seulement pour les femmes, mais aussi pour des hommes laïcs, pour ces ministères institués de lecteurs et d'acolytes. Et ça peut aussi ouvrir la porte à d'autres ministères institués, parce que le pape François lui-même, il souligne que c'était déjà présente dans le motu proprio ministeria coedam en 1972. Il le répète encore lui-même dans la lettre qu'il a écrite au cardinal Ladaria, qui n'est pas exclu qu'il y a une émergence d'autres ministères institués qui doivent être approuvés par le Saint-Siège. Mais on peut donc s'attendre à un développement éventuellement, mais toujours bien sûr selon les besoins de l'Église.
Alors certains évoquent une étape ultérieure qui serait l'ordination des femmes. Que peut-on en penser au regard de ce qui a déjà été dit par les souverains pontifes ?
Sur ce plan-là, rien ne change à mon avis. C'est difficile d'y toucher. Ce que je trouve plutôt important en ce moment, c'est qu'avec ce texte du pape François, on sort de cette logique de se référer constamment au sacrement de l'ordre. Et je pense aussi qu'il est primordial de quitter cette perspective et d'insister beaucoup plus sur le fait comment on peut développer sur la base du baptême, comment on peut développer cette diversité de services et de ministères dans l'Église qui peuvent être exercés par les laïcs.
Et d'ailleurs, oui. Ce motu proprio est sorti le lendemain de la fête du baptême du Seigneur. Peut-être que oui. On peut le lire comme ça
oui.
Aussi.
Oui, c'est très parlant hein, comme symbole, tout à fait.
Dans quelle mesure ce motu proprio pourrait répondre à des défis actuels tels que le manque de prêtres dans certains diocèses, dans certaines régions, ou encore la difficulté d'accès à l'Eucharistie en cette période de pandémie ?
Pour l'Eucharistie, on aura toujours besoin du prêtre qui fait en sorte que le pain et le vin deviennent vraiment le corps du Christ. Et donc ça, on ne peut pas y toucher. Et en temps de pandémie ou en absence de prêtres, je pense que avec les ministères institués de lecteurs et d'acolytes, ce sont des fonctions qui sont quand même très liées à la liturgie. Pour l'acolyte, c'est un peu plus large aussi si on dit que voilà, l'acolyte peut aussi apporter la communion aux malades, etc. Mais il n'est pas besoin non plus d'être ministre institué pour le faire. Le document final après le synode sur l'Amazonie a aussi évoqué, par exemple, un ministère de femmes leaders de communautés. Apparemment, donc en Amazonie, il y a ce besoin-là. Il y a certainement d'autres pays qui seront aussi intéressés par cette idée. Le pape François n'en parle pas pour l'instant, mais ça peut être quelque chose à développer. Mais il faut bien réfléchir de quelle manière.
Et comment va se passer la mise en œuvre de ce motu proprio dans les diocèses ?
La seule chose qu'on sait, c'est que les conférences épiscopales devront formuler des critères concernant notamment l'idonéité des personnes. Il faut être apte à exercer le ministère en question et il y a certainement aussi des exigences de formation ou de formation permanente. Personnellement, je vois aussi un intérêt pour avoir au niveau de la conférence épiscopale peut-être des critères pour faire un discernement concernant l'opportunité d'avoir des ministères institués de ce genre, parce que c'est une vraie réponse à ces besoins. Ce n'est pas une obligation non plus. Donc, chaque évêque diocésain est libre ou pas d'avoir ses ministères dans son diocèse. Et je pense qu'on ne peut pas non plus les imposer aux paroisses. Donc, dans ce sens-là, on peut aussi, de nouveau, avoir une diversification selon les endroits, selon les sensibilités. Et c'est important de maintenir ça. Parmi les questions ouvertes, je vois aussi celle de savoir comment on va gérer ce ministère, si c'est à vie. La personne ne peut pas exiger qu'elle va exercer ce ministère seulement dans sa propre paroisse, parce qu'on est au service de l'Église et donc au service du diocèse. Ça implique une certaine disponibilité pour aller là où il y a un besoin et là où l'évêque souhaite que la personne exerce ce ministère. qu'est-ce que ça implique quand la personne quitte le diocèse? Je pense qu'on peut faire une sorte de parallèle avec l'incardination des clercs. Ils sont incardinés, donc ça crée un lien juridique avec des droits et des devoirs réciproques entre les clercs et le diocèse. Ce sera un peu pareil, je pense, pour les ministères institués. Ce n'est pas une incardination, mais ça crée quand même un lien plus fort entre le fidèle laïc qui reçoit ce ministère et le diocèse où la personne va exercer ce ministère.